Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il y a deux ans, le 2 novembre 2013, nos collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient enlevés puis assassinés à la sortie de Kidal dans le nord du Mali. Dans les semaines qui ont suivi, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution décrétant le 2 novembre journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette résolution demande à tous les États membres de faire le maximum pour prévenir la violence contre les journalistes et le personnel des médias et elle appelle à aller jusqu'au bout des enquêtes dans les crimes commis contre les journalistes. Mais vous l'avez certainement entendu sur notre antenne, Reporters sans frontières affirme que ces deux dernières années, 134 de nos confrères ont été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Et dans la très grande majorité des cas, ces crimes restent impunis. Plus de 90% des crimes commis contre les journalistes dans le monde ne sont jamais élucidés, souligne le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Alors dites-nous, quelles sont les conditions de travail des journalistes dans votre pays? Avez-vous le sentiment que leur sécurité est garantie? La liberté de la presse est-elle effective? Vous nous rejoignez, nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous écoutez en France. Et pour commencer, pour lancer le débat ce matin, avec nous Boubacar. Il nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Boubacar.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auteurs de RFI. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Ghislaine et Claude qui sont morts sur le champ d'honneur de la liberté de la presse. Et je pense sincèrement que c'est une très bonne initiative que de décréter cette journée dans la mesure où la presse est très importante. Je crois que c'est un droit pour les populations, aussi comme l'eau et le pain. Un droit vraiment qu'on n'hésite pas malheureusement à bafouer lorsqu'il y a des situations de crise. Et je prends pour exemple la situation du coup d'état manqué de Djebel Dianguéré à la mi-octobre au Burkina Faso. Oui. On a constaté notamment une coupure du signal de RFI, on a constaté le saccage d'une radio, des télés, des radios ont cessé d'émettre. Je crois que c'est important qu'on puisse mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes et surtout protéger la liberté de la presse. Quand je le dis, je pense notamment à Norbert Zongo. Mmh. Norbert Zongo qui a été assassiné en décembre 1998 au Burkina parce qu'il enquêtait sur la mort de David Ouédraogo. David Ouédraogo, le chauffeur de François Compaoré, qui n'est personne d'autre que le frère de Blaise Compaoré.
L'ancien président.
Ce crime, c'est assassiné. Oui, l'ancien président du Burkina Faso. Donc il a été sauvagement assassiné le 13 décembre 1998 parce qu'il enquêtait sur la mort de David.
Et il faut quand même préciser que l'affaire concernant l'assassinat de Norbert Zongo a été classée par un non-lieu. Et il y a eu tout de même un rebondissement il y a quelques mois, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était au début du mois de juin. L'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé, elle a même ordonné aux autorités du Burkina Faso de rouvrir l'enquête sur l'assassinat de Norbert Zongo.
Exactement, il fallait rouvrir ce dossier qui a été classé sans suite à un moment donné. Un non-lieu, je peux dire. Mais c'est dommage parce qu'on sait, une commission d'enquête avait dit au moins qui sont les sérieux suspects dans cette affaire-là. Mais rien n'avait été fait parce que ceux qui étaient soupçonnés d'être les commanditaires étaient au pouvoir. Je crois que les choses avancent. Il faudrait mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes. Il faudrait pouvoir protéger la presse. Et aujourd'hui, protéger la presse, c'est d'abord éviter l'impunité pour les crimes contre les journalistes et aujourd'hui prévenir aussi, donc faut protéger la liberté de la presse. Et je pense que ce qui a été fait au Burkina, notamment l'adoption d'une loi qui dépénalise partiellement les délits de presse, ça aussi ça collabore à la protection des journalistes. Je crois que c'est important que nous puissions le faire dans la mesure où je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi important pour nous, c'est un droit, l'eau, le pain. C'est un droit. Et lorsqu'on n'a pas ces informations, nous sommes un peu plongés dans le noir. Tout ce qui était au Burkina Faso, on constatait que lorsqu'il y avait la tentative de coup d'État, nous n'avions pas d'informations. Nous sommes coupés du monde. Nous sommes coupés de la réalité. Donc c'est important que les journalistes soient protégés afin de faire leur travail dignement et aussi dans toute la légalité pour que nous ayons le droit à des informations crédibles.
Merci Boubacar. Merci de nous avoir appelé de ce témoignage de Ouagadougou, Burkina Faso. Carmel, bonjour.
Oui.
Vous êtes à N'Djamena, au Tchad. On vous écoute, soyez le bienvenu.
Je vous entends. Oui, le collègue Boubacar du Burkina a presque tout dit. La presse est importante dans notre pays, malheureusement, comme il l'a dit. Voilà, la liberté de la presse n'est pas respectée. Là où la presse exerce librement voilà, les droits des citoyens, ils sont la voix des citoyens et c'est le quatrième pouvoir. Et ils essayent d'exercer un contrôle en quelque sorte et d'informer la masse sur ce que l'élite ou le pouvoir fait et qui doit le faire au bénéfice de la population.
Et quel, et constat, là, chez nous, voilà, et quel constat justement dressez-vous dans votre pays au Tchad?
Oui, récemment, vous le savez, il y a votre confrère Laurent Kourou qui a été expulsé du Tchad de manière pas très respectueuse. Et là, c'est la presse internationale. Et ou encore, il y a quelques jours, le directeur de publication du journal Haut-Parleur, qui a été aussi, lui, a été kidnappé en quelque sorte, maltraité, abandonné quelque part, comme un malpropre. Alors, ce cas-là n'aide pas à faire grandir une nation, n'aide pas à faire grandir une démocratie, n'aide pas, comme les gens prônent la Renaissance, par exemple, au Tchad. On ne doit pas faire subir ces humiliations aux journalistes qui essaient de faire leur travail honnêtement. Et malheureusement, la société civile, qu'elle pose une limite seulement de condamnation en parole. Normalement, comme le cas de Norbert Zongo, quand il y a ce cas, on ne doit pas attendre que un journaliste meure avant de défendre dans la rue, exiger que les journalistes soient protégés. On doit faire plus de pression sur le pouvoir public pour qu'il y ait des lois qui protègent les journalistes.
C'est exactement, le réseau téléphone se dégrade, Carmel, avec Djamena. En tout cas, merci de nous avoir appelé. Et c'est exactement ce que demande Reporter sans frontières, hein, c'est de renforcer le dispositif pour assurer la protection des journalistes. D'ailleurs, Reporter sans frontières appelle les Nations Unies à créer le poste de représentant spécial pour la protection des journalistes auprès du secrétaire général de l'ONU. La fonction, la mission de ce représentant spécial serait donc de coordonner l'ensemble des actions de l'ONU pour garantir la protection des journalistes. Merci de nous avoir appelé, Carmel. 33 9 693 693 70. Le témoignage d'Abdourahman. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Conakry. Vous avez votre propre agence de production média. Vous êtes vous-même journaliste, pigiste, et vous souhaitiez parler de vos conditions de travail et celles de vos confrères sur place.
Oui, exactement. Ici, les conditions de travail sont un petit peu plus difficiles. C'est vrai qu'on a un bon arsenal juridique qui pourrait permettre aux journalistes d'exercer librement la profession, mais le problème, c'est qu'il y a un bémol. Par exemple, je prends juste la loi sur l'accès à l'information publique et qui ne concerne pas que les journalistes, qui concerne tous citoyens guinéens et tous autres citoyens qui soient d'une autre nationalité, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore promulguée. La loi a été votée par le Conseil national de transition depuis le 24 novembre 2010, mais à ce jour, elle n'est pas promulguée, elle n'est pas publiée au journal officiel, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas s'exercer.
Mais alors justement, comment expliquez-vous, Abdourahman, que 5 ans après le vote de cette loi, le texte ne soit toujours pas promulgué? Qu'est-ce qui bloque? Quel est le problème?
Alors franchement, c'est difficile d'expliquer cela. C'est justement ce qui choque un petit peu chez nous ici. Et on peut parler peut-être de lenteur administrative, mais la lenteur administrative sur 5 années, quand même, c'est assez long. Est-ce qu'il y a une volonté politique de permettre aux citoyens d'accéder à l'information publique? C'est la question aussi que nous nous posons ici. La loi L02, qui a été votée aussi en 2010 et qui a été promulguée par le général Sékouba Konaté, qui est une loi sur la liberté de la presse, qui dépénalise les délits de presse, n'a été publiée au journal officiel qu'en mai 2015. Il a fallu attendre que la haute autorité de la communication s'installe, qu'elle-même elle constate que la loi sur la haute autorité de communication ne pouvait pas s'appliquer puisqu'elle n'était pas publiée au journal officiel, pour qu'elle prenne de ses propres fonds et qu'elle publie cette loi au journal officiel. C'est aussi un petit peu la décrépitude de l'administration guinéenne.
Et vous-même, Abdourahman, vous êtes journaliste de presse écrite, radio, télévision?
Je suis journaliste audiovisuel, presse, radio et télévision.
D'accord. Et vous travaillez correctement ou vous sentez que par moment il est difficile de pouvoir aborder tous les sujets que vous souhaiteriez?
Si, il est difficile d'aborder tous les sujets que je souhaitais aborder. J'expliquais tout à l'heure que, en fait, par exemple, pour couvrir certaines manifestations, moi, par exemple, je prends juste un exemple. Lorsqu'il y a eu, à la fin de la campagne électorale, des affrontements entre Peul et Malinké au retour de Seloudel Ndiallo, vous savez, le lendemain, Alpha Condé avait prévu d'organiser un meeting. Finalement, j'ai dû désister pour aller couvrir le meeting, parce que de peur qu'on ne me confonde à cause de mon faciès, qu'on ne me confonde à l'ethnie peul, qu'on ne me considère pas comme un journaliste, mais qu'on me considère plutôt comme un espion. Parce qu'en fait, c'est ça la question. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'exacerbation des tensions ethniques fait que quand vous appartenez à une ethnie ou à une autre, on peut facilement vous confondre à un espion, alors que pourtant le journaliste vient sur les lieux pour récolter l'information et pour la diffuser. Il arrive souvent que les journalistes soient agressés sur le lieu de travail. Je prends juste l'exemple d'un ami qui était à Ségiri, qui a été agressé parce que simplement il filmait une manifestation du RPG Arc-en-Ciel contre la mairie contre le maire de Ségiri.
Merci Abdourahmane de ce témoignage. Merci de nous avoir appelé. 33 9 693 693 70. Vous savez que la mémoire de Ghislaine et Claude est honorée toute la journée sur notre antenne avec de nombreux invités, des reportages. Et par ailleurs, RFI remettra aujourd'hui la deuxième bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, une bourse qui leur rend hommage, qui porte leur nom. Elle vise à transmettre à une nouvelle génération de professionnels les valeurs du journalisme que nos deux collègues, nos deux amis défendaient. Cette bourse est remise à un journaliste et à un jeune technicien. Et après Bamako, l'année dernière, c'est à Antananarivo à Madagascar que la bourse sera remise cet après-midi. Vous aurez évidemment l'occasion de suivre cet événement à travers les reportages de notre correspondante sur place. Bonjour Barry.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez de Paris. On vous écoute sur la protection des journalistes.
Oui, tout à fait. J'abonde dans le même sens que ceux qui ont intervenu précédemment pour dire que jamais un assassinat de journaliste n'a été aussi lâche comme dans le cas de Norbert Zongo et Ghislaine et de Claude. Parce qu'il n'y avait rien à le reprocher, en fait, au fond. Bon, ceci étant dit, en tant que Mauritanien, je dirais qu'en Mauritanie, la presse est libre et indépendante, aussi bien légalement que sur les faits, d'après mes constatations. La presse écrite souffre plus parce qu'elle dépend de l'imprimerie nationale, mais aussi il faut passer par le ministère de l'Intérieur qui censure certains passages, etc., etc. C'est dommage que la presse doit passer par, qu'elle passe par un ministère pour être, il fallait créer peut-être un autre organe pour mobiliser un ministère pour relire la presse avant qu'elle soit imprimée et que surtout qu'elle dépende de l'imprimerie nationale, sinon on n'est pas imprimé la presse écrite. Sinon, rarement on a vu un journaliste emprisonné pour avoir écrit ou pour avoir dit quelque chose ces dernières années.
Bon, c'est une bonne nouvelle. Barry, un chiffre qu'on communique tout au long de la journée sur notre antenne, en 10 ans, plus de 700 reporters ont été tués à travers le monde en exerçant leur travail. 718, pour être précis, ce qui fait plus d'un journaliste tous les 5 jours. Ce chiffre a été communiqué hier par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Et depuis le début de l'année, près de 50 journalistes ont été tués dans le monde. Notamment en France, évidemment, au début de l'année, 8 journalistes, mais aussi au Soudan du Sud, au Yémen, en Irak, en Syrie. La liste est longue. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Barry ?
Oui. On rajoute aussi les 42 journalistes assassinés d'un coup aux Philippines.
Oui.
C'est pour dire qu'il faut, moi je pense qu'il ne s'agit pas de créer, comme Ban Ki-moon l'a dit, de créer un poste de représentant.
Alors ce n'est pas Ban Ki-moon, c'est Reporters sans frontières qui demande aux Nations Unies de créer effectivement le poste de représentant spécial pour la protection des journalistes.
Il faut aller encore beaucoup plus loin, mettre en place une convention internationale, de la même façon qu'on a une convention internationale qui punit les crimes contre l'humanité. On a une convention internationale qui punit les crimes contre l'enfant. On doit mettre en place aussi une convention internationale qui punit les crimes contre les journalistes. Parce que les journalistes, ce sont nos yeux et nos pieds, nos mains, nos yeux, et surtout les gens objectifs qui nous rapportent l'information. On a tous droit à l'information. Le droit à l'information est consacré, certes, mais ça ne suffit pas. Il faut protéger ce que nous rapporte l'information objective. Parce que ces gens sont morts parce qu'ils sont partis nous donner l'information de façon objective. Donc, il faut aller beaucoup plus loin, il faut un traité international, il doit être ratifié par les États. Et toute personne qui commet un crime contre un journaliste est passible de passer devant un tribunal international. Oui. Et surtout soumis à des lois internationales, pas des lois nationales.
Merci. Merci Barry, je vous interromps, il y a du monde au standard. Merci de nous avoir appelé. Bouna nous appelle du Sénégal. Bonjour Bouna.
Bonjour Juan.
Vous souhaitiez réagir à la situation des journalistes dans votre pays et vous dites qu'elle s'est améliorée ces dernières années.
Oui, mais permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour Claude et Ghislaine qui nous ont quittés dans des conditions que nous savons. C'est dommage, c'est triste, parce que des personnes n'ont pas compris que les journalistes sont des témoins de notre temps. Maintenant, pour le cas sénégalais, je pense que grosso modo, on peut dire que le climat est serein, que le journaliste peut faire son travail. malgré quelques
points. Éloignez votre bouche du éloignez peut-être un peu votre bouche du combiné, d'accord. Le son sature, excusez-moi.
D'accord. Maintenant, ce qu'on peut regretter par rapport à cette situation quand même acceptable dans notre pays, c'est l'autocensure. Il y a beaucoup de thèmes qui ne sont pas abordés à fond, parce que c'est des sujets sensibles, notamment les questions qui touchent à la religion, les questions qui touchent à certains faits de société. Je pense que le Sénégal gagnerait, les journalistes sénégalais gagneraient à améliorer ces problématiques-là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une investigation de fond concernant certains thèmes. Mais grosso modo, puisque nous sommes dans un système démocratique reconnu par tous en Afrique, le journaliste n'a pas trop de problèmes.
Bon, en tout cas, si des confrères, des journalistes sénégalais souhaitent réagir après vos propos, ils sont évidemment les bienvenus sur notre antenne 33 9 693 693 70. Merci Bouna. En parlant de journaliste, on en a un justement au bout du fil. Il est directeur de la rédaction du journal L'Observateur en République démocratique du Congo. Je donne votre nom de famille complet, Luc Roger Mbala. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Et vous souhaitiez profiter de cette journée du 2 novembre pour prendre la parole et vous exprimer. On vous écoute.
Oui, d'abord, c'est un point sur la situation de la liberté de la presse au Congo. Il y a eu sensiblement d'amélioration. Hein, quand je vois la floraison des titres, des titres et même les chaînes de télévision, la diversité des informations traitées, je crois qu'il y a quand même, à se féliciter, même s'il y a quelques cas graves d'arrestation ou même des menaces sur le journalisme, notamment dans la partie est du pays. Vous savez, cette partie a connu beaucoup de moments de guerre et ce syndrome est encore présent, surtout quand les journalistes traitent leurs informations. Les efforts qui doivent être faits, je crois, M. Gomez, je crois que c'est au niveau du ministère de l'Information qui doit un peu laisser sa place aux instances qui régule les médias ici. Par exemple, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSAC, et même l'Union de la presse du Congo, d'autres organisations encore comme l'OMEC, l'OMEC qui est un observatoire de contrôle des médias. Je crois qu'on doit avoir la charge de gérer les affaires des journalistes, notamment l'accréditation des journalistes, les problèmes des reportages. Vous savez, il est parfois écœurant. Quand je donne un exemple, j'ai envoyé un journaliste pour couvrir l'inauguration du vol des Congo Airways et il arrive sur place et on lui dit non, il faut avoir d'abord l'autorisation du ministère de l'Information. Ça gêne quand même. Oui. Donc je crois qu'il faut un peu qu'il y ait moins d'influence du ministère de l'Information dans les activités des journalistes.
En tout cas, il y a une organisation qui défend sur place le droit des journalistes, qui est reconnue de tous, saluée de tous. C'est Journalistes en danger.
Le GED. Ouais. Le Journaliste en danger qui fait un travail impressionnant depuis 1997. Et c'est d'ailleurs avec cette organisation que la plupart des médias travaillent. Le force, pour moi, ça c'est mon point de vue, la liberté de la presse ne se donne pas sur un plateau. C'est un travail de longue haleine qui doit se faire en synergie avec toutes les structures qui gèrent les médias. Le GED, l'UNPC qui est l'Union de la presse, l'Union de la presse francophone et toutes les instances. Le ministère ne peut venir que comme une structure de conseil, je crois, et pas s'impliquer directement dans les affaires des journalistes.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Luc Roger Mbala. On arrive à la fin de cette émission. On aura certainement l'occasion de revenir sur le rôle des journalistes, l'importance d'assurer la protection à tous ceux qui vous informent au quotidien à travers le monde. On aura peut-être l'occasion d'y revenir vendredi dans la Libre Antenne. Demain, j'espère que vous serez tout aussi nombreux à réagir sur la situation en Guinée, puisque samedi soir, la Cour constitutionnelle a validé la réélection dès le premier tour d'Alpha Condé. Sept autres candidats dénoncent une mascarade. Se dirige-t-on vers une nouvelle crise politique en Guinée? On aura l'occasion d'en parler. 33 9 693 693 70. Vous nous appelez dès maintenant pour vous inscrire. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant commenter cette actualité sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Merci à tous, merci à mon équipe. À demain.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.